Bonsoir Marie et bienvenue sur le plateau de Radioactive. Et oui déjà.
Bonsoir Marcus, bonsoir tout le monde.
Ça passe vite hein.
Mais oui, on ne voit pas le temps passer à Radioactive.
Ça tombe bien, tiens, il y avait le battle de hip-hop la semaine dernière, on a évoqué la semaine dernière la danse hip-hop, on a évoqué aussi tout ce qu'il y a autour du rap et de tous ces invités que vous avez pu avoir au festival A Rock. Petite parenthèse, j'ai pu croiser Mohamed Idyassine qui est venu présenter le festival il y a une semaine tout juste, et puis je lui ai un petit peu rafraîchi la mémoire et il m'a confirmé tout est dire, figure-toi.
Donc je ne raconte pas que des mensonges.
Notamment cette fameuse rencontre avec Storm.
Ah, c'est bien, il y en a un bon souvenir, je sais, il nous l'avait confié, ouais.
Il y avait un peu plus de cheveux à l'époque, oh je suis vache.
Oh, bon, Mohamed, toi,
si tu m'écoutes, mais moi j'en avais plein, j'en ai plus beaucoup, maintenant c'est fini. On le disait, troisième chapitre de on peut dire une histoire de compagnonnage, voire une histoire d'amour pour cette culture-là, parce que ça fait longtemps que A Rock défend le hip-hop, et c'est pour ça qu'on a eu envie de faire un feuilleton à l'épisode.
Une série, comme on dit, sur certaines plateformes. Oui, on va conclure cette série, pour un troisième et dernier épisode, par le street art, auquel A Rock a consacré une belle part également, comme donc tu rappelais la danse et puis la musique, le rap. Et je rappelle encore qu'on a quand même eu Public Enemy, A Rock, Saint-Brieuc. Il y a encore des gamins qui me disent, mais c'est pas possible, je rêve. Si, ouais.
T'étais pas né.
Et en matière de street art, c'est pareil, on a eu des gens qui sont devenus des stars. Je pense à Mystique, je pense à Obey. Et je vais vous en parler. C'est drôle parce qu'une fois de plus, l'actualité match avec nos sujets. Je viens d'apprendre que l'Hôtel de Ville de Paris présente en ce moment une exposition sur le street art.
Ah bah, tiens.
Et ça m'a fait bizarre de lire ça, parce que je me dis, quand je pense que dans les années 80, comme toutes les villes, ils s'escrimaient à coups de centaines d'euros, voire plus, à effacer tous les graffitis, tous les tags sur les murs. Et maintenant, c'est carrément reconnu comme un art ou un courant artistique à part entière, jusqu'à être exposé à l'Hôtel de Ville de Paris. Et je me dis, que de temps parcouru.
Oui.
Mais je pense aussi à la ville de Saint-Brieuc qui a consacré à un moment un festival de street art. C'est drôle, c'est intéressant. Enfin, moi, je ne peux que m'en réjouir de cette reconnaissance. Mais je sais d'où ça part. Et quelque part, ça m'amuse un petit peu. Oui, c'est drôle. Je pense à quelqu'un comme Mystique qu'on a accueilli en 2011. Je suis un peu fâché avec les dates. Oui, 2011. Faut quand même savoir que cette femme, elle a fini en taule à un moment à cause de ce qu'elle faisait. Elle a payé des amendes. Elle est partie à un moment aux États-Unis dans les années 80. Bon, elle a découvert un peu tous ces courants là qui émergeaient aux États-Unis. Elle est rentrée, elle s'est mise à faire du théâtre. D'ailleurs, nous on l'a reçue, c'est drôle, avec la compagnie Cumulus. Dans le spectacle Esquam, elle tenait un des rôles, donc elle était comme ça comédienne dans différentes compagnies de rue, elle traînait un petit peu dans ce milieu-là. Et puis elle s'intéressait, à force de rencontres, elle s'est intéressée donc aux arts plastiques, et elle a repéré la facilité surtout, mais elle le dit elle-même, du pochoir, qui permet très rapidement d'intervenir justement sur les murs, qui techniquement parlant, c'est assez simple. Hein. Enfin, il faut fabriquer le pochoir et puis avoir sa bombe à aérosol. Et donc, elle s'est lancée. Donc, dans un premier temps, de façon extrêmement sauvage, elle a couvert les murs de la capitale.
Ça a interpellé. Hein,
qui n'a pas plu à tout le monde.
Ça a interpellé. Alors évidemment, il y a Mystique qui est connu, mais c'est vrai qu'il y a eu une mode comme ça dans les années 90 de pochoir, tout simplement. Alors je pense qu'il y a aussi ce côté rapidité d'action, parce qu'il faut être rapide quand on fait du street art.
C'est ce qu'elle dit aussi. Elle dit, j'ai choisi le pochoir pour la rapidité, parce qu'on est quand même surveillé par des gens avec des képis. On fait ce genre de choses. Et d'ailleurs, c'est en 1997 qu'elle a été arrêtée. Elle a fait un peu de tôle, hein.
Enfin,
elle a payé des amendes et tout. Et là, elle me racontait qu'à partir de ce moment-là, elle a décidé de demander des autorisations. Mais déjà, à l'époque, elle avait créé cette silhouette féminine, on va dire quoi, pas guicheuse, mais assez... comment on va la qualifier?
Un peu une vamp.
Très bien. Ouais. Mais d'elle-même, elle dit qu'elle est... Enfin, quand elle parle d'elle-même, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de penser à elle quand on voit la silhouette qu'elle a créée, elle dit d'elle-même qu'elle était une sorcière ludique. Et donc, on voit effectivement le petit côté sorcier de cette silhouette. Et donc, qui a couvert, pas tous les murs de Paris, mais plusieurs murs de Paris. Et non seulement donc elle avait cet art du pochoir, mais elle accompagnait, c'est une poétesse, je veux dire, elle accompagnait à chaque fois de phrases un peu comme des haïkus, des phrases très engagées en termes de féminisme, en termes politiques, et c'était pas rien Mystique, je veux dire, c'était voilà, c'était pas de la décoration.
Non,
si je peux me permettre, certains, notamment à Saint-Brieuc, ont confondu un petit peu la notion de décoration, d'embellissement d'une ville. Il y a des peintures de rue pour ça. Quand on s'intéresse à street art, on n'est pas dans l'embellissement, on est dans une prise de risque. Oui, il y a une prise de risque en termes, effectivement, de slogan, d'écriture, de visuel, enfin de graphisme. Et elle avait carte blanche quand elle est venue à Roc, parce que quand elle est venue, nous, on a investi un lieu qui était désaffecté, qui était l'ancien Monoprix, qui a disparu désormais, qu'on a complètement aménagé, retransformé en sorte de galerie d'exposition, avec le doux rêve que peut-être ça intéresserait certains et que ça serait devenu permanent, peu importe, foin du passé. Mais bien évidemment, Mystique nous a tout de suite demandé d'intervenir dans la ville. Elle a dit, moi, mon truc, c'est la ville. Ce qui peut paraître un peu paradoxal, même avec Jean-Michel Boinet, on en discutait, je lui dis, c'est un peu paradoxal d'exposer quelqu'un qui fait du street art et qui plus est, qui vend ses œuvres. Elle avait une galerie derrière elle, la galerie W. Bon, il y a un peu un paradoxe, mais à la fois, on ne peut que s'en réjouir. Je veux dire que les artistes vivent de leur art, c'est la moindre des choses. Ceux qui ont pu un peu nous égratigner à l'époque en disant, le street art dans une expo. Bon, mais n'empêche que Mystique, elle en faisait un principe, et elle était toujours conforme à ses idéaux, et donc elle a investi la ville. Et on peut encore en trouver des traces, si on cherche bien, à travers la ville, il y en a qui ont hélas disparu. J'espère que les propriétaires des portes auxquelles je pense, etc., ont bien gardé ces choses-là. Et donc elle a comme ça laissé sa trace à Saint-Brieuc.
Il y en a quelques-uns.
Et avec des slogans qui étaient absolument, je me rappelle de celui-ci qui disait « L'homme est un loup pour l'homme et un reloup pour la femme ». Je veux dire, tu peux partir avec cette phrase-là et puis tu gamberges, quoi.
C'est bien mon MeToo, hein, tout ça.
Il y en avait un autre qui disait « Le pouvoir ne protège pas, il se protège
». Ah ouais.
Si ça, c'est pas engagé, vous voyez ce que je veux dire. Et j'aimais bien son humour quand elle disait « C'est la vie, point de suspension, ça va passer, point d'exclamation ». On peut les retrouver peut-être ceux-là à Saint-Brieuc, je ne sais pas. Je sais que l'homme est un loup pour l'homme, je sais qu'il était à Saint-Brieuc. Et voilà, et donc Mystique, hélas, a disparu, enfin est décédé, c'était en mai 2022, d'une maladie, bon. Mais elle a bien marqué, elle a été pionnière dans le domaine du street art.
Tout à fait.
Après, faire le lien avec le monde du rap, du hip-hop, etc., j'en suis pas certaine. Je peux définitivement faire le lien avec le rock.
Ouais.
C'était
quelqu'un
de très rock, punk, dans son attitude, dans sa façon d'être, dans sa vie personnelle. Et chapeau madame, quoi.
Ouais, bien sûr.
Et ça a été un grand événement pour nous.
Elle avait signé une affiche. L'affiche
elle avait en plus fait le visuel du festival de l'époque. Après, elle a eu plein de reconnaissance, puisqu'elle a même été sollicitée par la Poste pour faire un timbre. Après, donc, elle vend ses œuvres et les œuvres sont toujours à la galerie W. Donc, si vous voulez en acquérir, n'hésitez pas. Oui, voilà. Et puis après, on a décliné ce visuel avec du merchandising, bien évidemment. Ça n'a pas été tout à fait simple les conversations. Enfin, à ce sujet-là, avec elle, Mystique, quelqu'un de très exigeant, qui mettait des limites à ceci, à cela, enfin, etc. Mais une exigence qu'on a acceptée, Jean-Michel et moi, parce que c'est la moindre des choses quand on est artiste, de bien diriger ce qu'on fait. Enfin, bien ce sûr. Qu'on fait de ce qu'après les propriétaires, les responsables artistiques du festival font de ton œuvre. Ça a toujours été le cas, hein, tout au long des années, mais je me souviens quand même de Mystique, de quelqu'un d'un peu ferme, on va dire.
Pas très surprise.
Au contact qui était pas évident dans un premier temps, et puis est-ce parce que je suis une femme, peut-être que ça a joué, mais j'avoue que je me suis super bien entendue avec elle. Il a fallu, bien sûr, dégeler un peu les premiers contacts, etc. Mais on a vraiment passé des bons moments, et c'était une femme vraiment très agréable.
C'est des rendus sur le festival, physiquement.
Ah ben complètement, elle était folle de joie d'avoir rencontré Brian Ferry, par exemple.
Oui, c'était cette année-là.
C'était cette année-là, elle me dit, waouh, j'ai vu Brian Ferry dans les coulisses. Enfin, elle était fan, mais comme une gamine, quoi. Enfin, c'est pour ça que j'insistais sur son côté rock, son côté... elle était vraiment fan de musique, ouais, complètement. Et elle a fait tout le festival, ah oui, oui.
En rouge et noir.
En rouge et noir. Et oui, mais c'était ses couleurs, bien
sûr. Bah oui, ouais. Ça me fait sourire aussi, parce que juste avant toi, on avait Vincent de Mass Prod et l'affiche.
Ouais, j'ai écouté un peu,
De Demain, c'est du rouge et noir aussi, c'est des couleurs un peu magiques, ça.
Ouais, effectivement, c'est surtout des couleurs très rock.
Très rock aussi.
Bah oui.
Et un peu anard, oui, on peut le dire. En tout cas, Mystique, c'était en 2011, mais c'était l'une des artistes qui ont pu être... Effectivement, le lien, alors c'est pas forcément du hip-hop directement, mais le graff est quand même aussi l'une des majeures, parties majeures, je dirais, de cette culture-là, et ça fait longtemps, comme on disait déjà, comme on l'a déjà dit, que Hard Rock s'est penché sur le sujet avant même que les musées ou les galeristes s'emparent de ça, quoi.
D'ailleurs, en 2016, on a carrément fait une exposition sur l'histoire du street art à la Maison de l'Aglo, grâce à quelqu'un qui s'appelle Jérôme Katz. Je vais commencer par le commencement. On a d'abord et avant tout exposé Obey,
ouais,
chez Bart Ferret. Qui est surtout connu sous son nom Obey. Pour les auditeurs, je rappelle que c'est lui qui avait créé ce fameux visuel de Obama qui disait Hope. À l'époque justement où il y en avait un autre qui était en train de se pointer et que Obey a voulu marquer justement son anti-Trumpiste en disant attention quoi, donc Hope, espoir pour Obama.
Et après les années Bush, hein, parce qu'il ne faut pas l'oublier, on parle beaucoup de Trump, mais il y avait eu quand même un Bush Junior qui était quand même pas... Ouais. Qui n'était pas le plus tendre non plus, on va dire.
Quelqu'un aussi qui a été... il était en France, à Paris, à l'époque de l'attentat du Bataclan.
Oui.
Et tout de suite, sa réaction a été de créer une œuvre. Et il a créé cette œuvre Liberté, Égalité, Fraternité, qu'il a offert à la France. Je rappelle à la France, parce que lui-même, dans une interview, en fait, il est reçu par Emmanuel Macron. Et dans une interview, il insiste bien en disant « Je n'ai pas offert à Emmanuel Macron cette œuvre, je l'ai offert à la France, parce que c'est ma façon d'exprimer ma douleur, ma peine. » Et ma solidarité avec les Français et avec les victimes et les familles des victimes de ce qui vient de se passer. Bravo l'artiste, certes, mais ça rappelle bien aussi qui était Shepard Fairey, c'est-à-dire que lui aussi c'est un punk, un rocker, il vient vraiment de là, il a été lui-même musicien. Maintenant, c'est devenu un homme d'entreprise, il a créé sa ligne de vêtements, il est reconnu partout à travers le monde, certes, mais il part de loin. Maintenant, il a quoi ? Il doit avoir une cinquantaine d'années, je pense, enfin dans ces eaux-là.
Ouais, c'est vrai, ouais.
Et c'est drôle parce que Jean-Michel Boinet, donc il avait en tête Obey, il se disait, waouh, ce mec, un jour et tout. Et il est à Londres un jour, Jean-Michel en déplacement, il va chez le fameux disquaire Rough Trade, que chacun connaît. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le disquaire de Londres qu'il faut visiter.
Qui est aussi un label, qui est aussi.
On va pas dire ceux
qui sont signés dessus, c'est tellement des monstres.
Et Jean-Michel me raconte qu'il traverse la rue et il voit un magasin Obey qui est en cours d'installation. Et il se renseigne un peu, on dit « Ah ouais, ouais, on inaugure demain. Ah, je peux jeter un coup d'œil. » Et non seulement il jette un coup d'œil, mais il tombe sur qui ? Il tombe sur Shepard Fairey. « Ah, bonjour monsieur. » Et Jean-Michel lui raconte un petit peu ce qu'il fait à Saint-Brieuc avec le festival à Rock. Shepard marque son intérêt, mais bon, il lui dit juste « Bon, bah donnez-moi votre carte, on reste en contact, quoi. » Et Jean-Michel me raconte ça en rentrant, je fais « Waouh, génial et tout, tu crois qu'on va l'avoir ?» Et bon, si c'était si simple, c'est plus compliqué que ça quand même. Et quelques temps après, Jean-Michel va à Paris et il tombe sur une exposition de l'historique du street art.
Ouais.
Je ne sais plus dans quelle galerie ou dans quel lieu à Paris, peu importe. Et il rencontre ce fameux Jérôme Katz, qui était le commissaire de l'exposition. Et bien sûr, ils discutent ensemble, Jean-Michel raconte sa rencontre et puis surtout son envie d'exposer Obey à Saint-Brieuc. Qu'à cela tienne, répond Jérôme Katz, j'ai une collection, c'est un collectionneur.
Auteur aussi, me semble-t-il.
Pardon,
il a aussi écrit des ouvrages, Katz.
Oui, il a écrit des livres également, ça. Oui. Sur le street art, bien sûr, entre autres. Et il est surtout collectionneur, enfin, de notre point de vue, surtout collectionneur. Et très rapidement, il a proposé à Jean-Michel non seulement d'accueillir son exposition sur l'histoire du street art, qu'on a présenté donc à la Maison de l'Aglo, mais surtout d'accueillir des sérigraphies, on en avait 230, de Obey. Et de nous préciser, ce sera une première mondiale qu'on fasse une exposition qui associe les œuvres avec la musique, alors que lui est imprégné de musique, mais personne n'avait eu l'idée de faire une expo thématique exclusivement sur Obey et la musique. On n'était pas peu fiers, quoique la première mondiale, ça nous échappe un petit peu. Mais lui, Jérôme Katz, était touché par ça aussi, et il s'est super investi, ce monsieur. Mais c'était impressionnant, puisque à la Maison de l'Aglo, il a passé tout le festival dans le lieu, certes pour surveiller les appareils, je vais vous expliquer pourquoi, mais aussi pour faire la médiation. Il accueillait le public, il expliquait, il racontait, il racontait pourquoi Ernest Pignon Ernest, ce fameux père du street art en France, lui aussi, était considéré comme un des premiers, on dit pas street arteur, artiste de rue. Et on avait une œuvre, enfin plusieurs œuvres d'ailleurs, de Ernest Pignon Ernest dans cette exposition. Et c'est intéressant pour les jeunes, enfin pour tout le monde d'ailleurs, pour tout le public, de voir aussi d'où ça part le street art. Enfin, certes, ça a été récupéré, j'ai envie de dire, par le mouvement rap, aux États-Unis dès les années 70, 80, enfin, etc. Mais ici, là, aujourd'hui, à l'époque en France, on avait quand même Ernest Pignon Ernest qui avait commencé à s'exprimer comme ça sur les murs, et lui aussi de façon très engagée. Il y a eu
une
magnifique expo à Landerneau, comment ça s'appelle, la Fondation Leclerc, là, sur l'œuvre et le parcours de. Et je peux vous assurer que ce monsieur est très engagé politiquement. Enfin, je veux dire, c'était impressionnant quand même. Et donc c'est intéressant de savoir que nous, les Français, on a quand même eu aussi notre propre...
Un précurseur.
Oui, absolument. Voilà, tout ne vient pas toujours non plus des ricains, quoi. C'est intéressant de le rappeler. J'ai rien contre, mais bon, c'est intéressant de le rappeler. Et donc cette exposition le rappelait, et l'exposition allait jusqu'aux nouvelles formes de street art et de nouveaux courants. Ils se sont saisis, eux aussi, maintenant, du web. Alors, du web et puis de l'informatique, moi je n'y connais trop rien, toute cette technologie.
On a pu le voir sur l'exposition 2022, d'ailleurs, ou 2021, qui était, c'était cette édition qui était un peu étrange, parce que sous fond de confinement, mais il y avait des choses de l'ordre de l'interaction, de l'électronique, avec, alors j'ai plus le nom de l'artiste, mais tu pouvais interagir comme ça dans un tableau, Alice Bonnet l'avait bien présenté, bien mieux que moi d'ailleurs, au musée. Mais si j'en parle, c'est que c'est un peu le prolongement de tout ça, parce que finalement le cadre reste le même, c'est la rue, on peut interagir avec les outils d'aujourd'hui, c'est-à-dire le numérique, c'est-à-dire Internet, etc. Mais finalement, c'est un petit peu la même idée qui se poursuit à travers les mises à jour finalement des nouveaux enjeux artistiques.
C'est intéressant de se dire que des artistes de la rue, ils sont pas comme ça enfermés dans leur caverne préhistorique. Je veux dire, ils s'intéressent aussi aux nouveaux médias. Mais dès donc en quelle année c'est ça, 2016, on avait proposé un wall painting où le public pouvait s'exprimer comme si jetait comme ça de la peinture sur un écran, et chacun pouvait et sur un train aussi, je me souviens, on pouvait comme
ça
décorer le train. Enfin, il y avait l'interactivité qui est un peu essentielle, surtout pour le jeune public. Je veux dire, ça leur permet de rentrer dans une œuvre, de la démystifier peut-être aussi. Donc l'interactivité, je crois, est assez importante chez les jeunes surtout.
Les trains, les métros, les gares sont des lieux majeurs et historiques de l'expression du graphe, de l'expression du tag et de l'expression du street art tout simplement. Et finalement, je reviens quand même, finalement c'était assez logique que ça y aille à Rock, mais je reviens quand même sur cet aspect lithographie. Alors pour expliquer ceux qui ne savent pas forcément, lithographie c'est un peu une manière pas trop chère déjà d'avoir des œuvres. Et puis c'est un peu, il y a quelque chose de l'ordre du tampon, enfin en tout cas de la reproduction comme ça. C'est ce qui est marrant avec Obey, c'est que c'est l'un de ses axes, et ça aussi je trouve que ça participe d'une démarche finalement de d'offrir comme ça, avoir des lithographies, parce que ça veut dire que ça reste accessible et que
ça permet à chacun de s'en saisir, d'en acquérir. Et une œuvre d'art n'est pas forcément inabordable grâce à la lithographie, mais aussi à la sérigraphie. Et d'ailleurs, les œuvres qui étaient exposées à Monoprix étaient en vente. Ouais. Je ne sais pas bien, me posez pas la question, je ne sais pas s'il y a eu des ventes, enfin j'en sais rien du tout, c'était pas notre business, c'était le sien, Jérôme Katz, puisque c'était sa propre collection qu'il mettait en vente. J'espère des briochins ou des costards mauricains, ou en tous les cas des festivaliers s'en sont saisis. Mais oui, ça rend comme ça, comme tu dis très justement, l'art abordable. Et tu pouvais repartir avec, je ne sais pas, un portrait de Public Enemy, il y avait John Lennon, il y avait Jimi Hendrix, il y avait Bob Marley, qui y avait d'autres, Johnny Cash, Sid Vicious, très punk quand même, il y avait pas mal de choses comme ça.
Les gens bien quand même.
Et puis s'amusait aussi à détourner des pochettes, on a déjà parlé au long des épisodes de cette émission de l'importance du graphisme en pochette de disque. Il s'en est saisi, il a fait une redéfinition, une relecture, une réinterprétation des pochettes de Led Zepp qui étaient exposées à la passerelle, n'importe quoi, au Monoprix.
Et, pour chaque côté.
Et je me souviens de ça. Il avait fait aussi sur Rock the Casbah, des Clash.
Ouais.
Il avait fait un détournement, on va dire, de la pochette des Clash. Ça montrait, enfin, je veux dire, lui, une fois encore, il était au cœur de la musique, je l'ai dit, je le répète. Et c'est important, enfin, je veux dire, pour nous, qu'un artiste, je veux dire, s'il est invité à Rock, c'est parce qu'il a d'abord et avant tout un intérêt pour la musique, il y a un lien, c'est ouais. Évident.
Et puis un propos évidemment qui va dans le même sens. Effectivement, ça a été un grand moment. Obé, moi, je me souviens très bien de cette exposition-là pour le coup. Des mystiques, on l'a évoqué. Est-ce qu'il y a eu d'autres personnages que tu voulais évoquer ce soir, Marie?
Ben oui, parce qu'on a donné sa place à un artiste local qui signe Avery.
Oui.
Ça, c'était en 2014, et on est allé le rencontrer, je ne sais plus si c'est lui qui a fait la démarche, non, je pense que c'est nous qui lui avons cherché qui était Avry, et il avait à l'époque un atelier, une sorte de squat au port du Légué, il nous a reçus là-bas, et on a bien discuté avec lui, un type super sympa. Pour ceux qui ne savent pas, quand vous vous promenez au port du Légué, côté quai Surcouf, si vous allez un petit peu loin, là où les chalutiers sont ancrés, vous avez tout un hangar qui est magnifiquement habité par les fresques de Avry, et pas que. Enfin, c'est lui le premier qui a commencé ça, et puis après il a invité des copains graffeurs et taggeurs, et ça vaut franchement le coup d'œil, et allez-y en famille, allez voir les décorations de Noël, mais allez voir aussi ce genre de choses. En plus, ça bouge, enfin je veux dire, au long des mois, il y a des nouvelles œuvres qui sont pleines d'humour, en plus, bien souvent, et aussi pleines d'engagement.
Bien sûr, ça va ensemble.
Militant, mais oui, mais c'est bien de le rappeler aussi. Et donc, cet Avry avec son atelier, on va le voir, on lui dit que ça nous intéresse vachement ce qu'il fait, ce qui était vraiment du premier degré. On l'avait découvert, nous, de cette façon-là, dans la rue, au port du Légué. Et on lui fait le pari qu'il s'exprime sur toile, ce qu'il n'avait encore jamais fait. Et donc, bon, je vais y réfléchir un petit peu quand même, nous a-t-il dit. Et on lui avait laissé le temps quand même de réfléchir et de réaliser. Et donc, il avait réalisé exprès pour Arock une vingtaine de toiles. De sa patte, donc on retrouvait cette patte que vous pouvez une fois encore découvrir sur les murs, et ça c'était à la galerie d'expo de la Passerelle, et c'était en quelle année, j'ai dit, en 2014.
Oui, il s'est exprimé il n'y a pas si longtemps que ça, puisque il y a des concours qui sont ce qu'ils sont, mais Saint-Brieuc a participé au concours de la plus belle gare de France, et c'est vrai que c'était ce graffeur là qui était avec Julien Tinet, qui donc passait du son, et Avry était en train de graffer en direct, hein, pour le coup, et donc ça veut dire que ce sont aussi des activistes. Il y a aussi quelque chose qu'on n'a pas évoqué, qui doit vous faire plaisir quand même, qui devait vous faire plaisir à Jean-Michel et à toi, par rapport à cet art qu'est le street art, c'est qu'il a le côté aussi un peu éphémère, quoi. Et je pense que ça fait aussi peut-être partie de... Moi, je pense que vous n'étiez pas insensible à ça, quoi.
Oui, puisque Jean-Michel Boinet un jour a invité un graffeur de Nantes, dont le nom m'échappe, à s'exprimer sur le mur de l'Aglo, ouais. Avant qu'on crée le festival Street Art à Saint-Brieuc. Et il y avait cette magnifique panthère, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui a été pendant des années sur ce mur de la maison de l'Aglo, qui a été recouverte par le festival Street Art. Moi, j'avoue, quand j'ai vu ça, je dis « Oh mince !» Mais c'est la règle du jeu. Enfin, je dirais, c'est.
Eux-mêmes le disent, hein.
Ouais. Bah, Mystique me disait toujours, moi, j'aime pas quand ça se passe au bout de 48 heures. J'aime bien quand ça dure un petit peu quand même. Mais elle assumait complètement cette règle du jeu d'être couvert et d'être, par définition, c'est la nature même du street art d'être éphémère. Bien sûr.
En tout cas, ces artistes à qui vous avez finalement rendu hommage en leur donnant des cartes blanches, en les invitant, en les valorisant à travers le festival, c'est vrai qu'ils ont, moi je trouve qu'ils ont un sacré mérite, parce qu'ils ont découvert, ils ont recoloré les villes, recolorisé, je veux dire, même les villes. Voilà, quand on se rappelle ce que ça pouvait être dans les années 80, même un peu début 90, il y avait quand même pas mal d'endroits qui étaient un peu moches, qui étaient très gris, etc. Eux amènent de la couleur, amènent de la fantaisie, amènent de la politique dans le sens aussi engagement, comme tu l'as bien rappelé, Marie.
Et de la réflexion.
Et de
la poésie. Et quand tu lis une fois encore les slogans de... Mais vous pouvez découvrir plein de slogans de Mystique si ça vous intéresse sur Internet. Et quand tu lis ce haïku, enfin moi j'appelle ça haïku, enfin peu importe cette phrase, elle peut t'habiter longtemps et puis elle t'amène à réfléchir et à discuter avec tes amis et qu'est-ce qu'elle a voulu dire, et parce qu'elle joue beaucoup. L'exposition s'appelait comment déjà ? L'amour à mort.
Ouais.
L'amour à mort, A-M-O-R, enfin vous voyez, elle jouait aussi beaucoup sur les sonorités et la phonétique, et c'était quelqu'un de très très fin. Exactement. Dernière personne qu'on a invitée, oui. C'est en 2016, c'est Matze, qui est une graffeuse allemande, donc qui est une femme, qui est maintenant reconnue internationalement, qui avait créé le visuel absolument superbe, très coloré, comme ça, comme si elle avait travaillé à la brosse un petit peu, un visuel, oui, une fois encore très coloré, et qu'on avait donc invité à exposer en 2016, et on avait exposé toutes ses œuvres qui valent maintenant très très cher sur le marché de l'art, et on n'était pas peu fiers d'avoir reçu cette femme de Berlin. Voilà.
Bah oui, parce que
qui, pour
aussi...
la petite histoire, est l'autrice de la plus grande fresque réalisée par une seule personne au monde.
D'accord.
Sa fresque faisait 700 mètres.
Ah oui.
Et elle allait de Berlin à Halle, je ne sais pas bien où c'est Halle, et c'est elle qui l'a réalisée, elle a quand même ce record.
C'est gigantesque. En tout cas, c'est vrai que on est parti du hip-hop, mais c'était quand même important d'évoquer tous ces graffeurs qui ont été vraiment partie prenante du festival, à qui souvent vous avez donné aussi l'occasion, comme on le disait avec Mystique, de réaliser les affiches, qui est quand même pas rien.
Bah, c'est, oui.
Et puis, c'est une histoire qui se poursuit un petit peu. Alors, peut-être avec aujourd'hui les formes nouvelles du street art et de l'art en général, mais ça fait vraiment partie intégrante de Hard Rock quand même.
Bah, d'aller secouer la ville. Et puis d'interpeller les gens, et y compris ceux qui ne sont pas festivaliers. Quel meilleur moyen que de s'exprimer dans le monde urbain, enfin dans la ville.
Avant qu'ils atterrissent dans des galeries, parce que c'est ce qui leur est pratiquement tous arrivé derrière.
On a été subjugués par la fréquentation de l'espace Monoprix. C'est pour ça que moi j'avais ce doux rêve que peut-être ça allait donner des idées à des gens, parce que après on avait exposé Troy Eriksen dans le même espace Monoprix. Je me suis dit, mais c'est pas Dieu possible, faut qu'on le préserve, ce lieu qui, on avait prouvé que c'était habitable, que c'était. Mais il y a eu une foule, mais vraiment là on a battu les records de toute fréquentation d'exposition d'Art Rock et puis de Saint-Brieuc. C'était impressionnant, et qu'est-ce que ça faisait plaisir, quoi.
Exactement, et Troy Eriksen,
mais bon, il y aura d'autres aventures. Bien évidemment.
Ça se poursuit, tout ça, évidemment.
Exactement. L'histoire continue, et c'est tant mieux.
Et c'est tant mieux, et c'est bien pour ça. C'est pas du tout une chronique passéiste, c'est ça qu'il faut dire. On peut le dire. Hein.
Et j'aime bien le rappeler, je voudrais pas avoir l'air trop rétro.
On n'est pas les vieux de la vieille, là, ça n'a rien à voir.
Vous savez, Transmusical, ils vont fêter l'heure, ils doivent 40 être à 42.
42, non, ah, c'est 42. 79, 80.
Ah, j'étais bénévole au Transmusical, moi.
43.
82. J'ai commencé comme ça, moi, bénévole.
C'est vrai.
Bénévole, je tenais le bar Espace VIP à la Cité, vous voyez. Voilà. Un début à tout, hein. Ah ouais, mais j'aime bien le rappeler, parce que quelquefois on me dit, mais comment, rentrez donc bénévole à Rock, si vous intéressez, et en commençant par bénévole, on peut faire son bonhomme de chemin si ça vous intéresse.
Mais bien sûr, mais il suffit simplement de le vouloir et de crocher dedans, comme on dit très, très régulièrement, en tout cas en termes de musique et de transmission de passion, parce que c'est quand même ça, cette histoire. Marie, je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année, nos amitiés à Jean-Michel aussi, évidemment, et puis on se retrouve au mois de janvier maintenant.
Eh ben d'accord.
Et on continue.
Ah bah tiens, arrive avec des chocolats au mois de janvier.
Au moins. Et puis les trans, et en trans, tu y faisais allusion. C'est dès demain, je vous le rappelle. On sera pas très loin de la salle de la Cité pour nous, on sera au bar en trans.
Pour moi, c'est la salle mythique des trans musicales.